Alors, le atibérine est important, me semble-t-il, de voir en particulier dans le livre de John Kaiser. John Kaiser ayant une approche d'historien, il est aussi, bon, je le connais bien parce qu'on a fait une tournée pendant 3 semaines ensemble, et puis pour la traduction, on avait quand même échangé pas mal. Bon, c'est un homme en recherche, venu d'une famille protestante, ayant pris pas mal de recul par rapport à la foi en général. Et finalement, il a passé une année sabbatique en France et il a découvert la forte présence à Saint-Paul-de-Vence, pas très loin d'ici, forte présence des musulmans ici en France, et puis en particulier de gens venus d'Algérie. Et quand il est rentré aux États-Unis, il voulait entretenir son français, il a continué à lire des revues françaises, puis il a entendu cette histoire de l'assassinat des moines, et plus il a lu le texte, en particulier, il a commencé avec le testament de Christian Schergier, puis il s'est dit, mais finalement, ces moines répondent à un certain nombre de questions que je me pose. C'est-à-dire, bon, il y a une multiplicité de religions, est-ce qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, comment est-ce qu'on réconcilie tout ça, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, vraiment. Et donc, il a cherché dans son livre aussi à répondre, à trouver des réponses à ces questions. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est pas nouveau pour les catholiques, certainement depuis Vatican II, mais c'est important de se situer dans cette démarche, c'est que lui, ce qu'il a frappé, c'est que finalement, à la fois du côté musulman et du côté chrétien, vous avez un combat. Alors, dans le meilleur des cas, c'est un combat spirituel, un combat intellectuel, un combat dans la fraternité. Dans le pire des cas, c'est un combat où on élimine l'adversaire physiquement. Et c'est un combat entre qui? En fait, c'est pas tant un combat entre musulmans et chrétiens, c'est qu'à l'intérieur même de l'islam et à l'intérieur même des christianismes, là, il y a un combat entre ceux qui croient en un Dieu qu'on peut appeler inclusif et les autres qui croient en un Dieu exclusif. C'est-à-dire, la personne qui croit en un Dieu inclusif, qui croit en un Dieu où, pour y avoir accès, il n'y a qu'une seule porte et qu'une seule clé. Voilà. Donc, généralement, les gens vous disent que la porte et la clé, bah, c'est eux. Et ben voilà, si vous n'êtes pas parti de la maison, vous n'avez aucune chance d'y aller. Alors ceux qui sont pour un Dieu, plutôt inclusif, ça ne veut pas forcément dire que toutes les différences sont bonnes à prendre, il fallait bien dénoncer le nazisme, et donc encore une fois, il y a beaucoup de musulmans, une majorité de musulmans qui vont dénoncer par exemple le terrorisme qui se réclame de l'islam, mais ça veut dire aussi qu'on est attentif à une certaine diversité pour arriver à la vérité. Alors, on a des héros de cette ouverture d'esprit, comme le cardinal Duval que j'ai évoqué, chez les chrétiens. C'est pas facile pour lui, c'est quelqu'un d'un sens très traditionnel, et finalement assez conservateur, mais qui a bien compris qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient en Algérie. Mais vous avez aussi quelqu'un comme l'émir Abdelkader, il a combattu les Français, et en même temps, il a sauvé entre 8000 et 10 000 chrétiens à Damas, pas parce que c'était des chrétiens, mais parce que c'est des êtres humains. Et si vous prenez un certain nombre de ses écrits, ben je vais vous citer un passage de ses écrits spirituels, il écrit « Si tu penses que Dieu est ce que croient les diverses communautés, musulmans, qui s'inclut dedans, musulmans, chrétiens, juifs, mazdéens, polythéistes et autres, il est cela, et il est autre que cela. Aucune de ces créatures ne l'adore sous tous ses aspects. Chacune de ces créatures l'adore et le connaît sous un certain rapport, et l'ignore sous un autre. » Et donc, c'est une approche dans laquelle on se dit, bah, l'autre a peut-être toujours quelque chose à dire. Alors, dans la tradition des évangiles, on voit bien que Jésus, dans la suite des prophètes d'Israël, dit à certains moments, bah, vous voyez, j'ai jamais vu une telle foi en Israël, mais il ne parle pas d'un juif. Il parle d'un centurion, certes craignant Dieu, proche de la communauté juive, mais qui n'est pas juif. Et donc, à plusieurs reprises, on se retrouve dans la ville avec des gens qui ne font pas partie de la communauté des croyants officiels et qui sont mis en avant pour la justesse de leur foi ou de leur action. Dans certains chapitres de Matthieu, Matthieu 25 en particulier, il y a une parabole où les gens arrivent au paradis et il y en a qui arrivent les mains dans les poches en disant bah, « Nous, on a toujours dit Seigneur, Seigneur, aucun problème, mais manque de chance. » Personne qui le reçoit, Dieu, le roi, m'a dit, mais moi je ne vous connais pas. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais pauvre, vous ne m'avez pas donné à manger. Et tous les exemples qui sont donnés sont très concrets. Il s'agit de la, très concrètes. Donc, bah, tout ce que vous avez fait à ces petits, c'est à moi que vous le faites. Et à l'inverse, il y a des gens qui arrivent, ils ne savaient pas qu'il y avait un paradis, ils les accueillent sur la base simplement de l'amour fraternel. Donc, on voit que ce n'est pas du tout trahir les Écritures, pour ce qui est des chrétiens, que de signaler cette déconnexion apparente entre la confessionnalité, le fait d'avoir un t-shirt sur lequel il y a marqué « I love Jesus », ça ne nous ouvre pas forcément les portes du paradis. En fait, ce n'est pas ça qui nous est demandé. Ça n'empêche pas de porter un t-shirt, mais ce n'est certainement pas l'essentiel. Donc là, on sort justement de logique identitaire et on entre finalement dans une démarche dans laquelle c'est une phrase que j'ai en commun avec un ami musulman, c'est que nous sommes capables de dire tous les deux, tous les musulmans ne diraient sans doute pas ça, peut-être pas tous les chrétiens, mais qu'aucune religion n'est sacrée, y compris la mienne, mais par contre, tous les hommes sont sacrés. Et quand Jésus dit, par exemple, le sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, il ne dit pas qu'il faut se débarrasser des religions ou de la religion, il ne dit pas c'est plus la peine de vous fatiguer avec une histoire de sabbat. Il dit simplement, c'est fait pour l'homme. Donc tout ce qui est religieux et qui n'est pas au service de l'homme, effectivement, est contre l'homme. Et de ce point de vue-là, les droits de Dieu et les droits de l'homme, je pense qu'on peut le dire sans risque, certainement à la tradition chrétienne, mais un certain nombre de musulmans sont d'accord là-dessus, il n'y a pas de conflit entre les droits de Dieu et les droits de l'homme. Ça me paraît extrêmement important pour l'homme contemporain, parce que je crois que c'est quelque chose qui, quelquefois, n'est pas compris. On a l'impression qu'il y a une espèce de concurrence entre Dieu et l'homme, et Dieu demanderait une espèce de soumission à Abel, ou serait là-haut avec un haut-parleur à nous dire « Bon, bah, souffrez les enfants, il n'y en a plus pour longtemps, je vous attends là-haut, je vous fais chauffer le café, et vous en aurez bientôt fini. » Bon, dans la perspective chrétienne, Dieu et le mystère de l'incarnation fait qu'il partage les souffrances humaines, donc... Si on voit Dieu de cette manière-là, on se rend compte évidemment, sans que ça donne toutes les réponses au mal, mais qu'il y a effectivement un partage des souffrances et que ce n'est pas de l'indifférence. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important de mettre au cœur, et je pense que c'est une des forces de Jean-Paul II, de mettre au cœur de la pensée théologique et de nos différentes démarches le fait de servir l'homme. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui était ressenti par un certain nombre de musulmans au témoignage des moines. Quand les frères ont été tués, le père Tessier a reçu énormément de courriers. Je vous lis un passage de l'autre parmi beaucoup d'autres. En tous les cas, nous vous aimons. Donc, c'est une musulmane qui parle. Vous faites partie de nous. Donc là, elle s'adresse aux chrétiens qui sont en Algérie. Vous faites partie de nous. Nous avons failli à notre mission, celle de vous protéger, de vous choyer et de vous aider. Pardonnez-nous, votre place est parmi nous, n'écoutez pas les pharisiens, vous devez accomplir votre mission envers Dieu avec nous, je pense que c'est le dessein de Dieu. Vous voyez, ça ne s'est jamais passé aux 20h du TF1. Alors, c'est ce que disait Christian Chergé dans son testament, hein, c'est que... Il écrit, je sais que les caricatures de l'islam qu'encouragent un certain islamiste. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes de ces extrémistes. Donc, il faut bien distinguer islam, islamisme, ou islam politique radical, et terrorisme islamique, parce que même entre les islamistes et ceux qui vont faire des actions terroristes, il y a une différence notable. Tous les islamistes ne sont pas pour des actions violentes. Alors, dans les positions critiques, si vous voulez, des musulmans par rapport à la situation de l'islam, il y aurait beaucoup à dire. Moi, je trouve ça passionnant parce que, justement, les paroles venant des musulmans, c'est un autre poids, si vous voulez, qu'une critique qui serait extérieure, de gens qui ne sont pas à l'intérieur de l'islam. Mais il y a un certain nombre d'intellectuels musulmans aujourd'hui dans la diaspora, qui sont en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, donc dans des pays à minorité musulmane, qui se posent des questions cruciales. Vous lisez Le Monde il n'y a pas très longtemps, vous aviez un article très intéressant du doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Tunis, Abdelmajid Chaf, qui disait, je le cite, « La censure qui sévit un peu partout donc dans les pays musulmans et le taux élevé d'analphabétisme font que le nombre de livres de traduction est dramatiquement bas. La recherche scientifique est squelettique, les bibliothèques publiques rares et très mal fournies. Et donc pour ces personnes qui ont un regard très critique sur la situation, il leur semble que le système religieux musulman est trop protectionniste. C'est-à-dire que finalement il y a un système de défense mis en place, y compris sur le plan intellectuel, qui lui est préjudiciable dans l'intérêt même des musulmans. Et donc l'enjeu, me semble-t-il, quand on est ici à Marseille, c'est que nous, on n'est pas embêté, vous comprenez, par le gouvernement algérien qui a ses propres intérêts, c'est simplement, à mes yeux, un pouvoir militaire. Les militaires se partagent les droits d'importation, etc. Tout va bien pour eux. Pendant que, si vous voulez, quand on a visité les amis à Casba, il n'y a pas d'eau au robinet. Comme je vais à Alger, je lui donne l'exemple d'avis, lui, employé de banque, elle, infirmière libérale. On me prépare une bassine d'eau pour pouvoir me brosser les dents le lendemain, parce qu'il n'y a pas d'eau au robinet. Pour un pays si riche en gaz, le petit peuple se pose forcément la question de savoir où va cet argent. Il y a tout un effort d'infrastructure qui a été fait ces dernières années, il y a des choses qui s'améliorent, mais c'est très choquant de voir ça. Alors, par rapport à ça, donc, il y a un désir de faire bouger les choses. Ici, on n'est pas confronté à ce type de gouvernement qui se sert en l'occurrence de l'islam comme ça l'arrange. Ce n'est pas nécessairement des grandes autorités religieuses qui sont derrière ce genre de politique. Donc, à Marseille, on n'est pas confronté à. On a des problèmes, mais on n'est pas confronté à ce type de problèmes. Donc, ce qui compte, c'est aussi de pouvoir se rencontrer, travailler aussi en matière d'éducation, l'accès au savoir pour le plus grand nombre, pas dans un esprit d'un missionnaire qui consisterait à faire la mission attendue comme une espèce de récupération de l'autre, mais dans un respect profond de la conscience des uns et des autres. Pour que dans leur recherche personnelle, ils puissent aboutir à découvrir la vérité telle qu'elle se présente à eux, dans ces relations, ces lectures, cet accès aussi à l'éducation pour les jeunes, ça me paraît très très important. Notre expérience, qui me reste encore quelques minutes, sur laquelle je voudrais insister, dans le sillage des moines de Tibérine, très souvent on les présente comme finalement, un lieu de dialogue interreligieux. Si vous lisez Christian Chergé, c'est pas un écrit de jeunesse, avril 1995, il écrit quoi? Je le cite. Le dialogue purement théologique avec les musulmans est sans issue. Christian Chergé. Le dialogue purement théologique est sans issue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas du tout dire qu'il est contre le dialogue théologique, mais c'est que simplement, même Christian Chergé, avec toutes les études qu'il avait faites, en islamologie à Rome, avec sa grande culture, etc. Même lui insistait, avec tous les frères de Tibérine, parce que c'est extrêmement important, sur le fait que ce qu'il a en premier, c'est les liens concrets avec les voisins. Il parle de simplement un verre d'eau partagé. Et donc Tibérine fonctionnait beaucoup dans cette relation avec les voisins. Christophe Le Breton, un petit livre le plus jeune des frères de Tibérine, passait beaucoup de temps au jardin. Il cultivait ses tomates avec les voisins. Il se passe plein de choses quand vous cultivez des tomates. Donc là, vous n'êtes pas une conférence interreligieuse, mais vous êtes en train de travailler, chrétien, musulman, et il y a des relations qui se tissent, il y a des propos aussi qui s'échangent. Donc, depuis les regroupements, ce qu'on appelle le regroupement familial en 76 en France, on a beaucoup de familles musulmanes qui sont installées. La cité que nous habitons a été construite au moment des rapatriements d'Algérie en 62. La plupart des pieds noirs sont allés se construire des villas quand ils ont pu s'en sortir, etc. Et donc, à nouveau, on a des populations étrangères, surtout du Maghreb, beaucoup des Comores, et donc des familles, pour la plupart, musulmanes. Il y a des familles, quand ils arrivent en France, il faut bien se mettre à leur place, si on y arrive. Ils n'ont jamais vu un chrétien de leur vie. Alors, nous, quand on s'est installé dans le quartier, c'est nous qui avons dû être accueillis, c'est nous qui étions les étrangers. Et comme on ne voulait pas du tout cacher notre identité pour qu'il n'y ait pas mal d'hommes, on a pris le risque inverse, c'est-à-dire carrément dire que nous sommes chrétiens. Alors, je portais la qui me parlait les yeux fermés. Alors je lui ai dit, j'aime tout ce que me parler les yeux ouverts, c'est quand même un peu pénible, les yeux fermés. Et il me dit, non, mais moi, le Coran m'interdit de regarder une croix. Il dit, ben, t'as pas de chance, parce que moi j'ai lu pas mal de fois le Coran, et je ne vois vraiment aucune sourate qui interdit ça. Il y a quelquefois des trucs pas très sympas pour nous, chrétiens ou juifs, mais il y a aussi beaucoup de choses très sympas. Alors je vais t'en servir quelques-unes. Alors je lui ai servi quelques sourates appropriées, montrant que le prophète de l'islam avait demandé de respecter les prêtres et les moines, parce que ce sont des gens qui ne se gonflent pas d'orgueil, et que tu remarqueras que parmi eux, tu trouveras tes meilleurs amis, c'est écrit dans le Coran. Enfin, d'abord tout étonné que j'ai lu le Coran. Et puis, 6 mois plus tard, surtout, il jouait au Scrabble, les yeux ouverts, dans notre appartement. Pas parce que nous avions eu une conférence islamo-chrétienne, mais parce que tous ses copains venaient chez nous et se disent que c'est quand même effectivement pas très sympa de vivre les yeux fermés quand je parle à Andy ou Karim. Et donc, en 6 mois, on avait déjà considérablement avancé par la proximité. Et un an après, on faisait des mathématiques ensemble et il me disait, mais en fait, j'ai réfléchi et vous êtes venu habiter ici pour nous. Vous pourriez habiter ailleurs. Donc il a déjà fait une autre étape, effectivement, vers une vision très différente, finalement, peut-être pas des chrétiens en général, mais des chrétiens en particulier qui avaient sous leurs yeux. On a eu des discussions, c'est les enfants parlent très librement de ce qui se passe à la maison. On a eu quelquefois des commentaires, oui, ben voilà, il y a tel enfant, il ne peut pas venir ici parce que vous êtes chrétien. Les parents font ce qu'ils veulent, c'est eux qui vont respecter ses parents, pas de problème. Et après, ils disent, oui, alors, ben, les chrétiens, quand même, c'est un problème parce qu'ils n'ont pas allé au parrain. Finalement, ben oui, effectivement, c'est un problème, mais ça chagrine, ben oui, on ne va pas se retrouver là-haut, c'est quand même dommage. Alors, vous voyez qu'au bout d'un an, à force de dire que c'est dommage qu'on ne va pas se retrouver là-haut, il y a des grandes discussions familiales qu'on nous a rapportées, et que finalement, la solution théologique provisoire, c'était que finalement, non, comme on faisait du bien, de temps en temps, on pourrait peut-être quand même être au pareil. Donc, vous voyez, c'est des histoires d'enfants, mais qui sont en fait des discussions d'adultes, et c'est très intéressant de voir que, sur la base de ce que les gens voient de leurs propres yeux, ils sont obligés de réviser leur théologie. Mais quand je dis ça, là je parle des musulmans, mais il faut bien savoir que ici, c'est pas différent. Hein. Donc, c'est un travail mais qui ne peut se faire que par rapport à une expérience de rencontre. Alors, chez Christian Chergé, l'expérience de rencontre a été radicale, puisqu'à l'âge de 23 ans, il était en Algérie officier de l'armée française, et que il s'était lié d'amitié à un certain Mohamed et Christian, c'est mieux qu'un roman, hein, mais quintessence de l'islam et du christianisme. Et donc Mohamed et Christian étaient devenus très copains, ils parlaient beaucoup de questions religieuses, et en particulier Mohamed reprochait aux Français qui voyaient en Algérie, en particulier les soldats, de jamais prier. Je trouvais ça quand même bizarre, des gens qui disaient quand même, copains. Tout ça, ça avait beaucoup frappé Christian. Et puis, donc, il y avait souvent ces discussions. Et un jour, donc, il y a eu des félagas qui sont apparus, sortis de nulle part, et qui ont posé leurs armes sur Christian pour le tuer. Et Mohamed s'est interposé en disant, non, c'est un ami des Algériens, c'est un ami des musulmans. Et donc, il va sauver la vie en intervenant comme ça. Et puis, donc, le lendemain, on l'a retrouvé égorgé dans son hameau près du puits. Et donc Christian Chergé, à 23 ans, pendant 15 ans, il n'a jamais parlé de cette histoire. J'avais discuté avec son frère aîné Robert, il m'a dit pendant 15 ans, il n'a jamais parlé à personne. Et après, bon, il n'a plus en parlé. Mais donc ça a été pour lui une expérience fondatrice, c'est-à-dire que ça vous plaise ou non, que ça rentre ou non dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a un musulman qui s'est interposé, qui nous a sauvé la vie, parce que vous faites ça. Donc, voilà. Alors, ce qui est important, c'est que ce genre d'expériences positives se multiplient. Elles ne sont pas forcément spectaculaires, mais entre des personnes, en chair et en os, qui puissent vivre cette proximité, et si possible dans la durée, parce que il y a toujours eu les missionnaires franciscains au XIIIe siècle qui partaient pour la gloire du martyr dans les pays musulmans. Ils arrivaient, ça faisait les 3 jours qu'ils étaient là, personne ne les connaissait, ils prenaient la parole sur la place publique et ils disaient, voilà, chers frères musulmans, nous vous l'annonçons, Jésus est vrai Dieu, vrai homme, Dieu est bien un en 3 personnes, et bon, ils se faisaient dégouiller, évidemment, tout de suite, de dire des choses pareilles. Alors, le problème, c'est qu'ils se faisaient zigouiller, mais les gens croyaient qu'ils faisaient du diable, puisqu'on n'avait pas encore fait l'expérience de leur humanité. Alors, chez les frères de Sibérie, on n'accepte pas les voisins de vérité théologique verbale, mais d'abord, on vit ensemble pendant un certain temps. Après, les gens sont bien obligés de se poser des questions. Et je vous assure que pour être retourné à Sibérie, même si j'avais 14 militaires pour moi tout seul, ce qui limite un petit peu, si vous voulez, les contacts avec les voisinages, j'ai même pu discuter avec les voisins les plus immédiats, et en toute liberté et intimité, et eux, bon, les moines, partie de leur famille. Donc moi, j'ai parlé avec les enfants de ma cité, ils m'appellent tonton, il y en a certains qui m'appelaient papa, donc tonton suffit, et j'ai toujours fait partie de leur existence. Donc pour eux, c'est un peu. Ils vont forcément se dire, bon, c'est sûr qu'il y a eu des croisés, mais peut-être que les chrétiens ne sont pas tous des horribles personnages. Pas forcément des gens parfaits, mais enfin, au minimum, c'est des gens qui. Ça fait important d'en faire l'expérience. Le temps est compté, je vais probablement m'arrêter là. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que. Il me semble qu'on peut regarder ces questions de rencontres interreligieuses, de mariages mixtes, etc., comme des choses difficiles à vivre, et c'est certainement un défi qui n'est pas commode à relever. En même temps, on peut le regarder, c'est très prégnant dans la pensée, par exemple, des chrétiens chargés, on peut le regarder aussi comme une occasion nouvelle d'effacer, justement, et de transformer l'héritage du passé, qui est assez lourd, hein, avec la communauté musulmane, des deux côtés, puisque, pour ce qui est de la France, on se retrouve un peu sur le terrain neutre, dans un cadre laïque, et que, je ne l'ai pas fait ce soir avec précision, mais je pourrais éventuellement vous donner un texte plus complet, mais vous avez des déclarations, par exemple, il n'y a pas très longtemps en Allemagne, de la communauté musulmane expliquant que, bon, pour eux, il s'agit de s'inscrire dans la loi telle qu'elle fonctionne en Allemagne, et donc, qui ne sont pas nécessairement dans une rhétorique remettons la charia, le burqa et compagnie. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose qui joue de très important dans la diaspora musulmane en Europe, et que là, je crois qu'il y a une chance à saisir dans l'esprit de Tibéri, même si les moines de Tibéri étaient en Algérie. Je pense aussi que en France, et en particulier à Marseille, il y a un certain nombre de réalités de rencontres qui sont à vivre, qui sont peut-être pas de l'ordre directement du dialogue interreligieux, mais plus de la rencontre interreligieuse, sachant que les gens qu'on rencontre ne sont pas en fait des musulmans, enfin moi c'est pas comme ça que je vis les choses, c'est des êtres humains uniques, qui sont entre autres choses plus ou moins musulmans, mais ça ne les définit certainement pas exclusivement. De même que, qu'est-ce que ça veut dire, je suis chrétien, après qu'est-ce que vous mettez dedans, quoi. Donc c'est important d'essayer de rencontrer les personnes et de savoir que les familles sont très différentes et de découvrir aussi cette diversité, mais en vivant des choses constructives.